Bonjour le Book Club, bonjour Nathalie Azoulay. J'ai lu Python il y a quelques semaines avec énormément de plaisir. Je l'ai vraiment lu comme un roman d'initiation au sens premier du terme. J'ai eu le sentiment d'être initié à quelque chose, à un savoir-faire, à un monde, à un univers.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et si le codage informatique était l'autre nom de la jeunesse et du désir? Et si des doigts qui pianotent à toute vitesse sur le clavier inspiraient autre chose que des réflexions sur la binarité et l'autorité d'un langage 0-1? Dans son dernier roman, Nathalie Azoulay met en scène le monde si particulier des codeuses et codeurs informatiques, traversé par une femme qui écrit un livre et se demande si elle a encore peur du loup ou du serpent, peut-être. Nathalie Azoulay est notre invitée pour son roman Python. Vers 15h50, comme chaque lundi, nous avons rendez-vous avec Emmanuel Laurentin pour lecture d'actu. Il choisit de lire ou relire des livres en fonction de l'actu. Aujourd'hui, les manifestations d'agriculteurs dans tout le pays lui font ressortir un livre qui s'appelle Nature humaine de Serge Joncourt. Et en fin d'émission, nous cherchons toujours de la musique dans les textes et on en a trouvé dans le roman de Nathalie Azoulay. On est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Nathalie Azoulay.
Bonjour.
Soyez la bienvenue. Python, c'est le titre de votre dernier roman paru aux éditions POL. Votre personnage principal, votre narratrice, est une grande lectrice. Elle connaît très bien la littérature. Elle cite Proust, Kafka. Elle a peut-être envie de lire ou relire Anna Karénine. Mais ici, tout commence par un portrait de vous. En tant que lectrice, on parlera de votre personnage plus tard. Est-ce que vous vous souvenez où et quand vous avez appris à lire? Éventuellement avec qui et dans quel paysage?
En fait, je ne me souviens pas très bien du moment où je ne sais pas lire et je me souviens surtout du moment où je sais déjà lire. Et donc des scènes où quelqu'un m'apprendrait, où je serais en train de déchiffrer des livres pour enfants ou des manuels, je ne les ai pas en tête. En revanche, ce que j'ai comme scène, c'est une scène où j'ai à peu près 7-8 ans et je suis libraire en fait parce qu'il y avait une série américaine très ancienne qui s'appelait Peyton Place et qui passait à la télévision et que j'aimais beaucoup. Et la mère de l'héroïne était libraire. Et donc moi, dans ma chambre, je m'amusais à disposer mes livres qui étaient des oui-oui ou des contes et légendes. Je me souviens que j'avais des contes et légendes ou des albums. Et je les vendais en fait. Donc j'avais le sens de la valeur des livres. Mmh. Mais ils étaient plutôt fermés, je ne les lisais pas, mais je trouvais que c'était de petits trésors.
Et en dehors de votre chambre et de votre étalage de libraire, il y avait des livres chez vous?
Il n'y avait pas beaucoup de livres chez moi. Donc j'ai pas eu une enfance de lectrice compulsive, où on m'aurait transmis beaucoup de choses. J'ai, je crois, fait mes armes toute seule, et assez tardivement, quand j'étais adolescente, je ne lisais pas beaucoup. J'étais plutôt en bas, avec les garçons en train de jouer au foot et à toutes sortes de jeux de plein air. Je n'étais pas très concentrée sur des livres. Et toujours pendant mon adolescence, je sais que j'ai lu des choses du genre Flash, Moi, Christiane F., bon, qui n'étaient pas de la littérature, qui étaient plutôt de l'ordre du témoignage et qui m'avaient pas mal marquée. Et en fait, la littérature, elle est entrée dans ma vie et la lecture en première, où là, j'ai lu Les mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir et là, j'ai eu un choc.
Parce que c'est au programme ou parce que quelqu'un vous conseille de
le
faire ?
Parce que quelqu'un me les a conseillés et je me souviens de ce choc. Je sais pas, je crois que une porte s'est ouverte qui ne s'était pas encore ouverte. Je me souviens qu'à la même époque, j'avais Madame Bovary sur ma table de chevet que je lisais, mais ultra péniblement parce que je ne comprenais pas et je trouvais ça très ennuyeux. Mais du moment où j'ai lu Simone de Beauvoir, je pense qu'il y a eu de l'air dans ma vie et un grand vent qui m'a transportée. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire des études littéraires. Et quand je me suis retrouvée à faire des études littéraires, bon, j'ai fait des classes préparatoires et là, j'ai pris conscience de mon retard. J'avais très très peu lu par rapport au reste de mes camarades. J'avais des lacunes pas possibles. J'avais pas lu les classiques, j'avais pas lu Les Misérables. J'avais vraiment pas lu grand-chose. Et j'ai eu une fin de lecture très très vorace. Et j'ai beaucoup lu pendant, je sais pas, je dirais 10 ans, mais de manière très très compulsive à ce moment-là, avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'impatience et d'attente. J'ai été assez comblée. Enfin, je crois que la lecture m'a remplie de vitalité et d'idées et d'attentes. Et à partir de là, ça n'a plus cessé. Mais naturellement, je ne suis pas une lectrice compulsive.
Alors, vous dites à la fois, ça n'a plus cessé, mais je ne suis pas une lectrice compulsive.
Non, parce que je ne lis pas beaucoup et je ne lis pas des tas de livres par semaine, par exemple.
Mais vous lisez en permanence.
Mais je lis pas en permanence.
De temps en temps.
Régulièrement. Et je lis très souvent pour écrire, c'est-à-dire que je ne bouquine jamais, par exemple. Je ne sais pas ce que c'est que d'ouvrir un livre pour le plaisir et la découverte, et même l'exotisme. L'exotisme n'est pas du tout une porte d'entrée pour moi dans la lecture. J'ai besoin d'aller vers des choses qui m'intéressent déjà, qui me concernent, qui me travaillent.
Vous savez ce que vous allez chercher?
Ouais, je crois que je sais. J'ai des attentes à la fois sur les thèmes, mais aussi sur les façons de faire. C'est-à-dire que je regarde comment les autres font, comment ils ont fait quand c'est le passé. Et puis, je crois que grâce à mes études, j'ai pris conscience de ce que c'était que l'histoire littéraire, c'est-à-dire qu'on écrit après les autres. Et quand, par exemple, j'ai découvert les ambitions d'un Flaubert ou d'un Rimbaud qui voulaient renouveler leur genre, j'ai compris que moi aussi, si un jour j'écrivais, il faudrait que je prenne conscience du fait qu'il y a eu un avant et qu'il y aura peut-être, bon, en tout cas, un présent ou un après, je ne sais pas. Mais en tout cas, qu'on n'arrivait pas comme ça en littérature et que c'était aussi une histoire de forme. Et ça, ça compte toujours beaucoup pour moi. Et quand j'ouvre un livre, c'est naturellement vers ça que je vais.
Est-ce que vous pouvez détailler ou étayer un petit peu ce que vous dites, Nathalie Azoulay, quand vous dites que quand vous commencez à lire, après ne l'avoir pas beaucoup fait, c'est un grand bol d'air. Donc, c'est-à-dire Si on essaie de dire plus ce que ça veut dire qu'une vie qui passe de pas beaucoup de livres ou pas beaucoup de lectures à ce que vous avez appelé une porte ouverte. Mais sur quoi? Ça change quoi dans votre vie?
Alors très concrètement, je reprends l'exemple de Madame Bovary, mm-hmm. que j'ai sur ma table de chevet à l'âge de 16 ans. Je suis en fin de lycée et là, je comprends à peu près rien, à part que c'est une histoire de femme qui s'ennuie, etc. Mais ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je lis ce livre 2 ans plus tard, parce que j'ai commencé des études littéraires. Et là, c'est le monde qui s'ouvre. Parce que
le même livre, vous voulez dire?
Le même livre, c'est-à-dire je relis Madame Bovary, mais là, je suis accompagnée par un professeur qui a des enjeux pédagogiques très clairs et intellectuels. Et là, je comprends, grâce à ce professeur, que ce livre raconte ce que c'est que d'avoir des illusions et de les confronter au réel et de les perdre, finalement. Et donc, à ce moment-là, la fenêtre qui s'ouvre, c'est la fenêtre entre l'illusion et le réel, la fiction et la réalité, l'espérance et le désenchantement.
Qui impacte la vie de la jeune fille.
Qui impacte, c'est-à-dire à partir de là, oui, il y a une dichotomie, une ligne qui fracture mon monde, en fait. Et je me rends compte à quel point la vraie histoire de Madame Bovary, c'est ça, plus que l'histoire d'une femme de province qui a des convenus. C'est vraiment l'histoire d'un livre qui raconte qu'il y a le réel, qu'il y a l'illusion et qu'il y a une confrontation et en général un choc.
Et à partir du moment où vous l'avez lu, vous êtes plus en capacité ou avec plus d'outils de le lire dans votre propre vie, de pouvoir comprendre ou éclairer ce qui vous arrive. C'est à ça que ça vous sert concrètement?
Ben oui, c'est une grille de lecture qui entre dans ma vision du monde et qui n'est pas du tout rigide parce que, évidemment, autour de Madame Bovary, il y a des tas d'autres livres et qu'à ce moment-là, je suis encore jeune et que les illusions sont encore nombreuses, et tant mieux. Mais en tout cas, je suis prévenue de quelque chose et pour moi, le roman a toujours été un instrument de connaissance de moi et du monde, mais d'abord de moi, évidemment.
Qu'est-ce que vous y avez appris de plus précieux dans les romans?
J'y ai appris la complexité du réel, j'y ai appris la multiplicité des points de vue, j'ai appris la précision de la langue et de l'écriture et de la situation ou de l'état d'écrit. J'y ai appris l'exigence, j'y ai appris aussi des choses qui traversent toutes nos existences, à savoir l'amour, l'enfance, l'origine, l'ambition, etc. Donc, je crois que j'y ai tout appris. Évidemment, je n'ai pas fait que lire, hein, j'ai continué à vivre en parallèle. Mais soudain, il y avait des gens qui, avant moi, avaient décrit toutes ces situations. Alors, pas toujours aussi exactement que ce que moi, je vivais, mais avec beaucoup d'avance quand même sur moi et d'anticipation. Et à 18 ans, je lis À la recherche du temps perdu. Et là encore, c'est un choc qui n'a pas fini de percuter ma vie et qui m'ouvre des tas de portes sur des tas d'univers du réel et imaginaire aussi.
Est-ce qu'il y a une œuvre ou des auteurs, autrices vers lesquels vous êtes sûre d'aller un jour, Nathalie Azoulay?
Alors d'abord, j'espère finir un jour Anna Karénine de Tolstoï.
J'espère commencer.
Parce que comme je l'ai écrit dans mon
350, livre, c'est ça.
Ouais, j'en suis à même pas la moitié. Mais en fait, j'ai un vrai problème avec ce livre parce que j'adore l'histoire d'Anna Karenine, mais l'histoire de Lévin, qui est l'autre personnage, m'ennuie terriblement. Et j'ai beaucoup de scrupules à passer les chapitres où il s'agit de Lévin parce que c'est la moitié du livre.
C'est donc une alternance entre l'histoire d'Anna Karenine.
Exactement.
Et l'histoire de
Lévin. Et c'est vrai que la partie Lévin est poussive pour moi. Mais bon, je vais faire un effort et je vais surtout acquérir l'assurance de si je passe Lévin et que je ne lis qu'Anna Karenine, ça ira quand même.
Ok. Est-ce que vous voulez vous fixer d'autres objectifs devant tout France Culture ou pas ?
Devant tout France Culture, je sais pas, il faudrait que je lise aussi Guerre et Paix. Non, mais j'ai une ambition avec Tolstoï parce que c'est du volume et que les cerveaux sont moins enclins à lire du volume. Et puis parce que je crois que c'est fondamental pour l'histoire de la littérature.
Et dernière question, est-ce que vous avez un livre ou des livres sur votre table de chevet ? Ont-ils un statut particulier, ceux-là ?
Oui, il y a des livres qui sont là en permanence. Alors évidemment, il y a Proust, mais il y a aussi un...
Toujours, Proust qui est vraiment sur la
table.
Ouais,
alors un volume de la Pléiade, j'ai pas de la totalité de l'œuvre, mais j'ai un volume que j'ouvre comme ça. Il y a un autre livre que j'ouvre aussi de temps en temps pour en lire quelques pages, c'est La Marche de Radetzky de Joseph Roth, qui est aussi un de mes livres de chevet. Et puis après, j'ai les livres qui
sortent. Ils sont concrètement de chevet, on est d'accord, hein. Ils sont vraiment sur la table de chevet.
Ouais, ils sont... Alors moi, j'ai pas une table de chevet, j'ai des tabourets un peu partout chez moi, et ils sont sur un tabouret en particulier qui est celui devant lequel je passe le plus souvent. Et mais il y a aussi des livres qui arrivent, qui sont nouveaux de la littérature contemporaine et qui m'attendent, que je lirai peut-être ou pas.
On va parler de votre livre à vous, Nathalie Azoulay, Python, qui paraît aux éditions POL, juste après cette chanson qui s'appelle Sexy Boy, et on entend Apollon 2000, zéro défaut, 21 ans, c'est l'homme idéal, charme au masculin.
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Les gens vont souvent par deux dans ma vie. Voilà ce que dit votre narratrice, écrivaine et peut-être bien double de fiction. Dans votre dernier livre, Nathalie Azoulay, alors qu'elle effectue une plongée studieuse et curieuse dans le monde des jeunes codeurs et codeuses informatiques, leur corps, les yeux, les mains de ces jeunes gens la téléportent bien des années plus tôt dans une relation fondamentale bien que non sexuelle qu'elle a entretenue avec un certain Simon. Que cherche-t-elle à comprendre en s'immergeant dans un langage binaire quand toute sa vie est consacrée à l'épaisseur et la nuance du langage littéraire ? littéraire? Quels sont ces êtres qui comptent parfois plus que celles et ceux avec qui l'on se marie et font famille et foyer? Le motif revient tout au long de votre roman Python, où deux visions de l'infini se côtoient, le numérique et le littéraire, deux visions du monde aussi, et peut-être deux âges de la vie. On continue de parler avec vous de Python, paru aux éditions POL, Nathalie Azoulay. Je sais, j'imagine, je suis certaine que les mots et les noms ont leur importance. Est-ce que vous pouvez nous dire deux, trois choses de ce titre ?
Python ?
Ouais.
Alors Python, c'est le nom d'un langage informatique qui fait partie des langages les plus utilisés, les plus populaires. Il a été créé dans les années 90 par un programmeur, ingénieur qui s'appelle Guido van Rossum, qui est néerlandais d'origine mais qui travaille aux États-Unis maintenant. Et évidemment, il y a des milliers de langages informatiques et d'autres aussi très populaires. Mais évidemment, le nom m'a retenu plus que les autres qui sont JavaScript ou C++ ou Ruby. Parce que Python a une charge symbolique très forte. Alors, il a nommé son langage d'après les Monty Python parce que, jeune homme, il aimait beaucoup l'humour des Monty Python. Mais moi, ce que j'y ai vu tout de suite, c'est une peau de serpent. C'est un serpent tentateur dans un jardin d'Éden révolu. C'est une transgression, une bravade, du sexe, quelque chose de plus sulfureux que du simple langage.
Oui, et clairement, c'est ce qui va courir tout au long du roman. C'est-à-dire que dès lors qu'on a ce python en tête, on a le serpent menaçant de la sexualité. Mais aussi, vous le dites, c'est très beau, la mue, en fait. L'idée de la peau de serpent comme étant des possibilités de passer d'un monde à un autre, d'un âge à un autre. Alors, le roman s'ouvre sur une très belle scène d'été. Voilà, des gens s'apprêtent à déjeuner. Et puis, il y a un jeune homme, Boris, qui, lui, ne vient pas manger car il est accaparé par l'écran de son ordinateur. Il est certainement en train de coder. Et puis, très rapidement, votre narratrice dit « Je suis une femme de 50 ans qui veut apprendre à coder ». Est-ce trop vous demander de savoir, Nathalie Azoulay, si vous êtes retrouvée dans cette situation-là, mis à part la scène d'été, mais en tout cas, est-ce que vous vous êtes dit « Ok, là, je suis au moment de ma vie où je suis une écrivaine de 50 ans qui veut apprendre à coder ».
Ah oui, bien sûr, c'est parti d'une expérience tout à fait réelle qui s'est confrontée aussi d'emblée à cette attitude que j'ai remarquée ici et là de jeunes hommes devant des ordinateurs complètement hors du monde et complètement immergés dans un espace-temps qui n'était plus le nôtre, qui était complètement magnétisant pour eux et qui n'était pas un simple jeu vidéo, qui était au contraire quelque chose qui avait de l'impact sur nos vies puisqu'ils étaient en train de coder des applications, des sites, enfin toutes sortes de choses qu'on utilise et desquelles on ne peut plus se passer. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait entre nous qui devisons de la dernière expo qu'on a vue ou du dernier film qu'on a aimé et puis ce jeune homme qui n'a aucune envie de se joindre à nous et que pourtant on connaît parce que non seulement il code, mais il a codé toute la nuit. En fait, c'est cette phrase qui me réveille.
Dit le père.
Le père dit, il a codé toute la nuit. Et donc, je me dis, mais qu'est-ce que fait un jeune homme qui par ailleurs a... Je sais pas, il est assez avenant, il a des amis, etc. Donc il pourrait faire autre chose de ses nuits, mais non. Pendant la nuit, il code et il ne fait que ça, et il le fait nuit après nuit. Et donc, tout d'un coup, il y a encore une fois une espèce de fenêtre qui s'ouvre pour moi, qui est à la fois obscure, mais qui est quand même très attirante, parce que je me rends compte que il y a tout un monde parallèle qui est fait beaucoup de jeunes gens, alors plutôt des garçons. Et qui est un monde puissant et qu'on méconnaît quand on vit à la surface des choses comme nous autres, en tout cas comme moi. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment où j'identifie cette silhouette qui code, j'ai très vite envie de rejoindre ce monde en essayant d'apprendre à coder, mais surtout de me le représenter et d'en faire une sorte de mythologie pour lui donner une forme, en fait. C'est-à-dire que je sais que c'est un monde parallèle, je sais qu'on n'y a pas accès, mais moi, en fait, dans ce livre, ce que je cherche à faire, c'est de lui donner des contours, de lui donner un sous-sol, un ciel, une mer, des habitants, peut-être des demi-dieux ou des dieux, je ne sais pas. Mais en tout cas, de lui donner une forme et d'en faire une sorte de cosmogonie, c'est-à-dire... comment est arrivé ce monde? Qui sont ces gens qui l'habitent, qui le font et qui nous font, en fait, à notre
insu. Oui, parce qu'il y a des grandes pages où on lit comme ça une accumulation de le code tout de nos vies, nos aspirations, nos désirs, nos achats, nos recherches. Est-ce que c'est représentatif de la manière dont les romans arrivent dans votre vie, Nathalie Azoulay? C'est-à-dire une image, une question, un désir d'exploration, voire un désir de compréhension. Est-ce que c'est ça qui vous met au travail?
Oui, c'est vrai qu'il y a toujours une silhouette qui me met au travail. Alors là, c'est la silhouette de ce jeune homme devant son écran avec son casque sur les oreilles. Dans mon roman précédent qui était La fille parfaite, c'était une jeune fille qui était seule dans un amphi. Elle était la seule fille parmi des centaines de garçons. Et souvent, je suis aimantée par ma silhouette inaugurale, je dirais, qui déclenche une envie de m'approcher, de comprendre et d'entrer dans le monde que cette silhouette me fait miroiter. Donc c'est vrai que ça se présente souvent à moi de cette manière-là.
Évidemment, et on va y venir, l'intérêt, il me semble, de votre roman, sa beauté, c'est de dévoiler son double fond et que ce qu'il s'apprêtait à explorer, à savoir l'histoire du code informatique, du langage informatique, même aussi la manière dont ça se transmet aujourd'hui dans les écoles, dans le monde contemporain, bon, se double d'une exploration autre qui est l'histoire de votre narratrice avec un homme, un jeune homme, et même tout le rapport entre la sexualité, la non-sexualité et ce qui fonde les relations humaines. Voilà, c'est très beau et peut-être que c'est l'effet surprise, mais on va y venir, Nathalie Azoulay. Peut-être encore un petit instant sur la dimension quasi documentaire, puisque ça existe dans Python. Quelle place ça a pris dans l'écriture de votre livre, vraiment d'aller voir voilà, les grandes figures de l'histoire du code informatique, même aussi les grandes figures de maintenant, c'est quoi l'école 42, etc., etc. Ça a pris quoi comme place dans la fabrication?
Ben, ça a pris une place assez première, c'est-à-dire je me suis dit... Alors d'abord, je suis arrivée naïvement devant mon projet et je me suis dit, bon, ben voilà, je vais apprendre à coder. Et puis, assez rapidement, je me suis rendu compte qu'on n'apprenait pas à coder comme ça, que c'était pas juste apprendre l'italien ou l'espagnol, et que plus qu'une langue, c'était une logique et vraiment une façon de réfléchir. Et donc, à partir de là, je me suis dit, bon, il faut que je m'initie méthodiquement, pas à pas. Et j'ai commencé à prendre des cours. Et en prenant des cours, évidemment, j'ai repris un peu d'histoire de l'informatique et remontant le cours du temps, je me suis arrêtée sur des moments clés de cette histoire avec des figures très essentielles qui avaient apporté chacune sa pierre. Et c'est comme tous les univers, en fait. Il y a une histoire derrière avec des gens qui l'ont faite. Et donc, ça m'a passionnée de voir comment cette histoire s'était tramée, s'était élaborée, comment elle continue à se tramer, puisqu'évidemment, elle est très active. Et donc, l'enquête qui démarre Python, c'est vraiment l'expérience par laquelle je suis passée, une expérience d'apprentissage, à la fois rocambolesque, parce que j'arrive avec ma naïveté, mon ingénuité, ma curiosité, et puis je prends coup après coup, et je vais de déboire en déboire, et d'incompréhension en incompréhension. Et même quand je comprends, en fait, je reviens à une forme d'incompréhension fondamentale, qui est, je ne comprends toujours pas comment ça marche, comment à partir de 0 et 1, puisque c'est le langage binaire initial, on arrive à envoyer des signaux à une machine qui va nous chercher de l'information et nous l'apporter.
Bon, c'est super parce qu'au passage, vous faites la petite parenthèse que je n'ai pas fait pour les gens qui nous écoutent et qui peut-être ne savent pas du tout ce que ça veut dire coder ou le langage codé ou informatique. C'est donc bien rentrer des signes sur une logique tout à fait binaire de 0 et 1 et à partir de tous ces signes-là, je le fais comme j'ai compris moi aussi, hein, créer des ordres, des récurrences, des boucles, des on fait comme ça, si c'est comme ça, etc. etc. C'est à peu près ça?
Oui, c'est à peu près ça. C'est donner des instructions à une machine qui doit, disons, prendre en compte l'arborescence des décisions de l'utilisateur.
C'est-à-dire potentiel.
Potentiel. Et c'est du potentiel très, très, très massif, puisque à chaque utilisateur, une décision. Donc, c'est une espèce de machine logique qui doit anticiper toutes les actions qui vont lui être demandées.
Vous avez prononcé le mot « initié » et c'est un mot qu'a utilisé aussi Romain, notre auditeur, membre du Book Club, puisqu'il a lu votre roman d'abord comme un roman d'initiation, Nathalie Azoulay.
Bonjour le Book Club, bonjour Nathalie Azoulay. J'ai lu Python il y a quelques semaines avec énormément de plaisir. J'ai d'abord été attiré par ce titre, par ce mot Python, sans rien savoir de ce qui m'attendait, parce qu'avant d'entamer la lecture, je ne connaissais rien au code, rien au langage de programmation, et ça a été une découverte d'autant plus belle et d'autant plus riche. Je l'ai vraiment lu comme un roman d'initiation au sens premier du terme. J'ai eu le sentiment d'être initié à quelque chose, à un savoir-faire, à un monde, à un univers. Et je me demandais, maintenant que le livre est paru depuis bientôt un mois, est-ce que vous avez des retours de codeurs, de programmeurs qui auraient lu Python? Et si oui, qu'est-ce qu'ils vous en disent? Qu'est-ce qu'ils en retiennent? Merci pour la réponse et peut-être à bientôt.
Merci à vous, Romain. Nathalie Azoulay, alors sur la deuxième question, est-ce que vous avez eu des réactions de codeurs ou de codeuses depuis la parution du texte? Et puis après, on aimerait bien vous entendre sur l'idée et le double sens éventuel du roman d'initiation.
Alors j'ai eu quelques retours de codeurs qui sont plutôt bons et enthousiastes. D'abord, il y en a beaucoup qui me remercient d'avoir mis un peu de lumière sur leur monde obscur et méconnu et qui m'envoient des messages, soit sur les réseaux sociaux, soit via des gens, pour me dire que ils sont contents d'exister de cette manière-là dans un roman. Après, il y a des retours qui sont ceux des écoles de code que j'ai sollicitées au départ de mon enquête et qui sont aussi contents de l'existence de ce livre et qui m'invitent à des événements pour justement favoriser ces dialogues entre les codeurs et le reste du monde, parce que à la fois ils sont entre eux et ils vivent très bien entre eux, mais je crois qu'ils aimeraient bien communiquer avec le reste du monde. Donc il y a ces retours là aussi qui sont très encourageants. Et puis je vais faire aussi des dialogues, des rencontres avec des codeurs sur scène, donc je pense que ça va être marrant de les entendre réagir en direct sur le livre.
Qu'est-ce que ça nous raconte, ou qu'est-ce que ça raconte, l'idée qui est comme ça, deux mondes séparés, alors qu'en fait l'un n'existe pas sans l'autre, voire l'un nécessite l'autre. Depuis tout à l'heure, vous utilisez ces métaphores-là d'un monde obscur, d'un monde séparé, c'est un monde ailleurs, etc. Mais en fait, c'est tout le temps. Enfin, là, dans le studio, il y a des ordinateurs. Juste avant, j'étais sur mon smartphone. Enfin, il y a du code partout dans nos vies, Nathalie Azoulay. Donc, ils et elles sont quoi, le sous-sol de notre monde à nous?
Moi, j'ai imaginé une soute avec des soutiers qui donneraient des instructions à des machines, mais à notre insu, en fait, parce que comme vous dites, il y a du code partout, mais on s'en rend pas compte puisque c'est invisible. Et c'est bien pour ça que j'ai ressenti le besoin de donner une forme à cet univers, parce qu'il est invisible, parce qu'il est intangible, parce qu'il est complètement dématérialisé, et que chacun de nous, quand on tape un message sur notre smartphone ou sur un ordinateur, on n'a pas conscience qu'il y a des dizaines de millions de gens qui ont codé les instructions, voilà, pour que les machines fonctionnent. Donc, et pourtant, c'est de l'humain derrière. Et c'est comme, si vous voulez, au départ de ce livre, c'est comme si j'avais vu une étendue de pierres et que j'avais soulevé les pierres et que j'avais vu dessous fourmiller des tas de signes, puisque ce sont des langages, en fait, qui préexistent à nos actions. Et ces langages, alors au départ, il y avait des 0 et des 1, mais maintenant, ils ont eux-mêmes subi toute une forme d'élaboration et de sophistication. Et plus personne ne rentre de 0 et de 1 dans la machine. Maintenant, on a des langages comme Python ou comme d'autres, qui ressemblent à peu près à des langages humains, avec des lettres, avec des nombres, avec des signes de ponctuation. Bon, alors, je mettrais quelqu'un devant, là, sur une page de Python, on comprendrait à peu près rien. Mais il n'empêche que ça s'est approché de la langue humaine, plus que jamais.
Sur l'idée d'un roman d'initiation, notre auditeur Romain disait j'ai eu la sensation d'être initié à quelque chose. On entend aussi, puisque vous parliez de l'histoire littéraire tout à l'heure à Nathalie Azoulay, l'idée du genre du roman d'initiation. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous interpelle, ce mot-là?
Oui, beaucoup. J'ai écrit un autre roman d'initiation avant celui-là, qui était La fille parfaite, qui est un roman d'initiation à deux têtes, avec deux filles qui démarrent une amitié dans l'adolescence. Là, c'est une autre forme avec laquelle je m'amuse, c'est-à-dire que je me prends comme élève, et donc je suis un élève très très attardé, puisque j'ai plus de 50 ans, et je choisis comme initiateur des jeunes gens. Donc évidemment, je joue avec le modèle, je le renverse, et je mets une élève aux prises avec des difficultés très grandes, avec des progrès très relatifs et très limités. Mais il n'empêche que malgré ce peu de progrès ou cet apprentissage un peu poussif, elle voit quand même des choses, elle entrevoit plus qu'elle n'avait vu au départ, et elle comprend surtout en retour que ces objets qui sont les siens, à savoir la littérature, la culture traditionnelle, les arts, etc., ne sont pas si dénués de valeur que ça. Mais je crois que ça, c'est un peu une tactique que j'ai inconsciente, c'est que quand j'ai des doutes sur ma propre pratique, sur ma propre existence, je vais chercher des mondes très très opposés aux miens, qui n'en ont que faire, en fait, qui travaillent pas du tout avec ça au quotidien.
Et ça vous conforte sur la valeur de des objets.
Ouais, c'est-à-dire que d'abord, je commence dans la confrontation à me dire, ah non, non, mais c'est pas du tout le monde de demain, je suis vraiment complètement à la ramasse, je suis passéiste, etc. Et puis, petit à petit, je me rends compte que non, que mes objets ont aussi de la valeur, que ces codeurs, quand ils sont confrontés eux-mêmes à de l'écriture littéraire, ils tendent l'oreille, ça les intéresse, ils voient de la précision dans de la littérature, alors qu'ils n'avaient même pas idée que ça pouvait exister. Donc je me dis, bah, en fait, ce qu'on fait, nous, et bien que ça concerne moins de monde et que ce soit peut-être plus ancien, eh bien, ça continue à avoir de la valeur que d'écrire une histoire avec des enjeux existentiels.
Pendant son enquête, votre narratrice a une sorte de mur d'image, comme une vraie enquêtrice de série policière, Nathalie Azoulay, et donc elle met comme ça des photographies, puis arrive petit à petit une autre photographie qui va imprimer notre rétine et qui va petit à petit devenir très importante. C'est celle de Simon, un des personnages très importants du livre.
Je devrais me taper le front, mais non. Je suis hébétée. Plusieurs indices auraient dû me mettre sur la voie, mais j'ai tout ignoré. Je me relève tout doucement et me dirige vers la petite commode. J'ouvre le premier tiroir, le deuxième, et dans le fatras des papiers, je finis par trouver la photo. C'est une pile qui coule dans mon circuit. Il porte une chemise à fleurs. Je me souviens de ma mère qui, par la fenêtre, le regardait marcher en bas de notre immeuble, puis qui dit « Il a des hanches, ton ami. Ce garçon a un corps de fille. » J'ai appris, depuis, qu'on dit « gynoïde ». Je l'avais certes remarqué, mais je n'osais pas me le formuler. Je trouvais ça insultant, un peu monstrueux. Je proteste, je nie, j'enjoins à ma mère de mettre ses lunettes. Gynoïde ou pas, Simon regarde les garçons comme on regarde habituellement les jeunes filles. D'un œil avide. Affamé. Dans la rue, il détaille les épaules, les dos, les fesses, tout ce que le jean moule. Quand Simon parle des filles, il les adore et les maudit. Dans son monde, le jeune homme ne me voit pas, déjà. Mais Simon, lui, vante la douceur de ma peau, la couleur de mes yeux, de mes cheveux. Et ses parents me prennent pour sa petite amie. Je suis sa couverture, sa légende de garçon normal, car elle me rend unique, exceptionnelle. Simon m'apprend à détester les chichis, à être la seule fille de la bande qui, à force, reste au milieu du guet, ni d'ici, ni de là, ni fille, ni garçon. Mais alors quoi ? Devant ma glace, je m'entraîne à certains mouvements d'épaule, de bassin. Je me déhanche d'une façon saccadée. Je suis une fille qui cherche à paraître gynoïde, le comble. Je convoite la masculinité ultime. Mes mains tremblent. Je ne sais où placer la photo de Simon. Je la mets sous Boris, puis sous Margot, puis sous Marion. Je pourrais la mettre partout comme Carrie avec le visage de Brody, mais non. Je la place à la droite de Marion. Puis je la fais glisser encore plus à droite, bien à l'écart. Simon est mon joker. Il transforme tout mon jeu, mais je ne veux ni me laisser trop impressionner par ma découverte, ni dévier de mon projet. D'autant que sa photo, à la différence de toutes les autres, fait grésiller le silence. Je l'enlève et lui coupe le sifflet.
Un extrait de Python, Nathalie Azoulay, lu par Oriane Delacroix, où la narratrice, autrice, découvre qu'il y a un personnage en plus qu'elle n'avait peut-être pas prévu d'accueillir. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce Simon qui arrive et qui fait à la fois dévier le projet et qu'elle essaye de pas complètement faire dévier le projet ?
Alors en fait, c'est vrai que j'ai, au cours de ce livre, confectionné un mur d'images qui m'aidait à tracer des liens, des lignes, des effets de cause et en tout cas de corrélation entre des univers et des choses qui m'étaient peu familières et que je n'arrivais pas toujours à joindre. Et en fait, Simon a été dans mon jeu, comme on vient de le lire, une sorte de carte maîtresse que je n'avais pas vue, en fait, un peu comme une lettre volée qui était sous mes yeux ou dans ma tête, mais que j'avais occultée. Et donc, ce Simon, c'est un peu le jeune homme des jeunes hommes. Ouais. C'est-à-dire que c'est le premier jeune homme de ma vie, au sens où il a été l'ambassadeur d'un monde de garçons. Puisqu'il n'aimait que les garçons, il vivait pour draguer les garçons. Et je le rencontre à l'adolescence. Et moi, qui n'ai pas encore commencé ma vie amoureuse, je découvre qu'il y a une sexualité brute, brute de décoffrage, sans chichi et complètement directe, comme ça, qui est celle des garçons entre eux. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il m'ouvre une fenêtre vers ce que serait une masculinité ultime. Alors tout ça est très fantasmatique, hein, parce que il y a pas de jugement là-dedans. Mais à ce moment-là, je me dis, un garçon avec un garçon, c'est comme si c'était un garçon à la puissance 2, en fait. Et moi, le garçon que j'aurais, qui sera un garçon avec une fille, ce sera un garçon un peu minoré, un peu amoindri, un peu édulcoré. Et donc, je grandis avec cette idée-là, et je me rends compte que, à force d'avoir fréquenté ces codeurs qui sont des garçons avec des garçons, hein, parce qu'on a beau dire, ils sont encore très très majoritaires, il y a un petit tiers de filles qui s'immiscent là-dedans, mais c'est encore très peu de choses.
À qui vous faites une place intéressante néanmoins.
Oui, je leur fais place parce qu'elles en ont une aujourd'hui, elles la conquièrent, elles s'installent. Mais historiquement, même si au départ de l'informatique il y avait des femmes, pendant très très longtemps et encore aujourd'hui, le monopole il est masculin. Et ça s'explique par plein de raisons. Donc
des garçons avec des garçons et Simon le patron des garçons avec les garçons.
Voilà, c'est un peu l'ambassadeur, l'incarnation, le symbole de ce garçon avec des garçons qui me font miroiter un monde très fascinant, mais où je n'ai aucune place en fait, où je ne peux pas entrer, où je n'ai aucune cote, où je ne suis pas désirée, où je suis presque invisible moi-même. Et donc, quand j'arrive comme ça, dans les travées de l'école 42, même s'il y a des filles, eh bien, je suis une sorte de fantôme. Et moi, fantomatique, je retrouve ce fantôme qui était Simon et qui est peut-être la clé de mon enquête, en fait. Et comme Carrie Mathison dans Homeland, qui cherche Brody partout et qui se demande qui est Brody, moi, en fait, je crois que je cherche Simon depuis le début et je ne le trouve que accidentellement. Et en fait, il éclaire tout mon jeu.
Et il éclaire la figure notamment d'un jeune homme qui s'appelle Enzo et dont la narratrice se rapproche d'un peu plus près. C'est un jeune homme qui l'émeut. Et à chaque fois, ce que je trouve, en tout cas moi, qui m'a beaucoup touchée, Nathalie Azoulay, dans votre livre, c'est la question du désir. C'est que, à la fois, c'est toujours engagé. Il y a toujours la question du désir, mais il n'y a pas toujours la question du sexe. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'enflamme. Il y a quelque chose qui s'enflamme, mais parfois dans la curiosité, dans le rapport au savoir, dans la curiosité du monde de l'autre. Mais le python, ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire le serpent, celui qui va risquer son corps jusqu'au bout, n'est pas toujours là. Et vous décrivez plein, c'est vraiment un motif qui revient à plein de moments, plein de relations qui sont extrêmement importantes dans la vie des uns et des autres, où le sexe n'est pas là.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. Il y a une forme de libido qui n'est pas toujours traduite par du sexe, qui peut commencer comme, d'ailleurs ça commence dans le livre, par une libido que moi j'appelle computundi, et qui est celle du codeur devant sa machine, qui
est celle qui fascine. C'est-à-dire, c'est ce fameux Boris plongé devant son ordinateur, et vous vous dites, ok, c'est quoi le fluide entre les deux trucs?
Mais c'est ça, parce que je pense que ce sont des jeunes gens, donc ils ont des hormones, ils ont des fantasmes, et ils ont une espèce d'interlocuteur permanent et qui reçoit tout ça et qui leur fait passer des nuits blanches et qui est cette machine. Et donc, je me dis, il y a forcément de la libido qui se joue à ce moment-là entre eux. Et donc, cette libido, je la suis comme un serpent. De temps en temps, elle se traduit par du sexe et notamment dans la vie de Simon. Et la plupart du temps, vous avez raison, elle se traduit par une espèce de sexe manqué, mais qui n'empêche...
Mais qui ne fait pas des relations manquées forcément.
Non, qui traduit quand même du désir entre les individus, entre Simon et moi, enfin entre Simon et la narratrice, entre, je sais pas, Freddie Mercury et sa meilleure amie, entre plein de gens qui sont aimantés pour la vie, mais qui n'auront pas de relation sexuelle.
Le sexe ou la séduction, c'est aussi au cœur de la création d'un grand réseau qui s'appelle Facebook et au cœur, qui a été au cœur d'un film qui s'appelle The Social Network, un film de David Fincher qui date de 2010. Si mes souvenirs sont bons, on va en écouter un extrait.
Alors, Marc,
Bardo,
vous avez cassé Erika et toi?
Comment tu sais ça?
C'est sur ton blog.
Ouais.
Et ça va?
J'ai besoin de toi. Je suis là pour toi. Non, j'ai besoin de l'algorithme que tu utilises pour classer les joueurs d'échecs.
Ça va, t'es sûr?
On classe des filles.
Tu veux dire des étudiantes?
Oui.
Tu crois que c'est une si bonne idée?
J'ai besoin de l'algorithme.
Marc.
J'ai besoin de l'algorithme.
Au départ, attribuons à chaque fille un capital de 1400 points. À un instant T, une fille A a un classement RA et la fille B a un classement RB.
Quand deux filles s'affrontent, chacune a une probabilité de gagner qui sera fonction de son classement à l'instant T, c'est ça?
Ouais. Et cette probabilité s'exprime de cette façon.
On programme.
La fille de gauche. À droite.
Super.
Encore celle de droite. Ça marche.
À qui on l'envoie en premier?
Doyer.
Neil.
À qui tu comptes l'envoyer?
Oh, juste à une ou deux personnes. La question est, à qui ils vont le faire suivre?
Personne n'incarne mieux le fierce nerd que Jesse Eisenberg, alias Mark Zuckerberg, dans The Social Network, que j'ai vu plusieurs fois, dont j'enjambe la partialité, la question du point de vue, tout ce qui nourrit les critiques. J'aime la manière dont le film construit le personnage autour de cette réplique en particulier, « He's wired in ». La locution n'est d'ailleurs estampillée que par le film. On ne la trouve nulle part ailleurs. Elle désigne l'action d'un codeur en train de coder, casque sur les oreilles. Boris, sur la terrasse, était « wired in ». En anglais, « wire », c'est un câble. Et littéralement, on pourrait traduire « wired in » par « branché », et si le mot existait, par « encâblé ». Je vois le circuit sangler le codeur et le codeur se laisser ficeler, ligoté par le circuit. Ses ligaments, ses tendons, ses nerfs devenir câbles. J'imagine des phylactères électroniques, une transe talmudique et robotique. David Fincher, le réalisateur du film, a demandé à tous ses acteurs de parler aussi vite que possible. Plus vite que dans une screwball comédie. Plus plat aussi, sans relief, pour obtenir un débit automatisé. Jesse Eisenberg, avec son regard buté, ses lèvres ourlées et parfois tressaillantes, seule manifestation de ses affects, le fait à merveille. À lui tout seul, il crée le mythe. Son débit mitraillette semble l'expression directe d'une pensée qui ne se soucie jamais de sa réception. Et pour cause, le film mise tout sur sa vengeance, ce que le vrai Zuckerberg conteste, puisqu'il s'apprête à détrôner ceux qu'il a enviés, ceux qui l'ont humilié, les filles, les wasps de Harvard. Qu'il y ait vengeance ou pas, une angoisse de fond nourrit aussi la férocité. Il faut aller vite, ne pas être doublé, que les serveurs tiennent, que le code tienne.
Un nouvel extrait de votre texte Python, Nathalie Azoulay, lu par Oriane Delacroix, qui fait suite à un extrait du film The Social Network. Et on entendait en effet que ça va vite, comme dans le texte que vient de lire Oriane. Il y a aussi l'idée de la binarité, c'est-à-dire une fille à gauche, une fille à droite, oui, non, on leur met des notes. Il y a beaucoup de passages dans votre texte où, on va dire, se confrontent deux visions du monde qui seraient d'un côté la binarité du langage informatique, dit très vite, et la complexité. L'épaisseur, la nuance du langage littéraire. Et pourtant, c'est un peu plus compliqué que ça. Est-ce qu'il y a aussi l'idée de faire se combattre ou s'essayer deux langages l'un contre l'autre?
Oui, alors c'est une confrontation un peu chimérique et qui n'a pas beaucoup de sens au fond. Mais ce qu'on entend bien dans ce film, c'est la logique probabiliste, c'est la logique statistique qui est à l'œuvre dans la programmation de Facebook qui est en train de se faire. Et hélas, la version française ne rend pas compte du débit accéléré de la version originale. Parce qu'il parle vraiment très très vite, comme personne ne peut parler vite. Et donc, c'est vrai que face à cette logique probabiliste, qui est celle de l'intelligence artificielle d'une manière générale, on a nos langages à nous, qui sont des langages plus sophistiqués, plus ambigus, où il y a de la profondeur, où il y a de la polysémie, où il y a de la connotation.
De l'incertitude.
Et ben de l'incertitude, mais aussi beaucoup de richesse. Et c'est vrai que en confrontant les deux, c'est à cette occasion-là que moi, je revalorise le langage littéraire et le langage humain. humains d'une manière générale. Mais c'est vrai que dans le langage probabiliste, dans cette capacité qu'ils ont à classer, à organiser, à faire ce que Google a fait, c'est-à-dire à mettre à disposition le savoir mondial de l'humanité, je suis quand même fascinée, parce qu'il y a cette question des échelles qui se joue comme on n'en a jamais en littérature, c'est-à-dire concerner le monde entier. Mmh. Et ça, c'est les objectifs, évidemment, et les enjeux de la science, que la littérature et que les arts n'ont pas complètement. Et donc, je suis partagée entre ma fascination pour ça et ma fascination pour ce qu'ils n'auront jamais, à savoir... l'ambiguïté ou la polysémie.
Et il y a d'ailleurs des scènes qui montrent ce qu'ils n'auront jamais, c'est-à-dire que vous vous mettez au défi d'écrire un livre avec une intelligence artificielle et ça marche pas, c'est trop pauvre. Enfin, on pourrait avoir comme ça le vertige d'un livre totalement écrit. Et c'est des questions très contemporaines, Nathalie Azoulay. Et ça marche pas. Alors qu'est-ce qui marche pas?
Bah, pour l'instant, disons que ChatGPT, pour ne pas le nommer, n'est pas assez bien entraîné. C'est-à-dire que comme il y a cette logique probabiliste où on lui dit tel mot est toujours associé à tel mot, alors il va écrire des choses qui sont de l'ordre du cliché, en fait, parce que c'est du langage très simpliste et des énoncés très simplistes et très courants. Donc il est pour l'instant entraîné comme ça et il est assez peu entraîné. Mais je pense qu'il va énormément faire de progrès. Hein. C'est évident qu'il va faire de progrès. Quand on voit les 20 ou 30 ans qui viennent de passer, on n'aurait jamais dit qu'il irait jusque-là, qu'on irait jusque-là. Et donc, je m'attends à ce qu'un jour, il écrive aussi bien que Proust, ce que dit l'un de mes personnages. Mais, aller savoir ce que va donner un texte aussi beau que du Proust, mais sans Proust derrière, c'est-à-dire sans quelqu'un derrière, sans une expérience humaine profonde, réelle, authentique. Je ne sais pas, sans une chair qui a souffert. Je ne sais pas si demain on vous apporte un texte merveilleux fabriqué par une intelligence artificielle, est-ce que vous allez avoir une émotion si on vous dit que c'est une machine qui l'a écrit? C'est pas sûr.
Quand je m'entendais moi-même parler de la binarité du langage informatique, évidemment, comment ne pas entendre aussi la binarité des genres, la binarité des sexes? À la fin de votre livre, il est question des grandes questions que se posent les hommes à propos des femmes et inversement les femmes à propos des hommes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi en sous-texte, Nathalie Azoulay, l'idée que la fabrication du genre, forcément, ou le rapport à l'expérience sexuelle, forcément, pour les êtres, eh bien, doit dépasser la binarité, que forcément, c'est beaucoup plus complexe, que forcément, il nous faut aller au-delà du 0-1.
Oui, évidemment, puisque je joue avec le trouble dans le genre et que je convoque des figures qui sont elles-mêmes très troublantes et qui jouent un peu avec le masculin, un peu avec le féminin et qui n'arrêtent pas d'osciller. Mais je dois dire que dans ce livre, il y a une espèce de fixation que j'ai, qui est un peu obsessionnelle, qui se énoncerait comme ça. Qu'est-ce qu'un garçon?
Ouais.
Qu'est-ce qu'un garçon? Comment est-ce qu'un garçon peut rester des heures devant une machine? Et je veux pas qu'on dise que je suis moi-même rétrograde, mais j'ai l'impression que c'est très masculin. Et il y a chez moi quand même une figuration du masculin qui est capable de cette absorption, de ne faire qu'une chose à la fois, mais de la faire à fond, et que le féminin n'arrive pas à faire, je sais pas pourquoi, parce qu'on est exercé à une forme de polyvalence dès notre enfance quand on est une fille. Mais peut-être que ça changera, et sans doute ça changera puisqu'il y a aussi aujourd'hui beaucoup de codeuses, mais il y a quand même cette fixation un peu obsessionnelle chez moi qui est à l'œuvre dans ce livre, Qu'est-ce qu'un garçon?
Je voudrais qu'on termine avec un dernier extrait de votre texte. Vous les avez évoqués, c'est encore une photographie, c'est encore une image, mais cette fois on est avec Freddy et Mary.
C'est une immense photo en noir et blanc, on ne voit plus qu'elle. Freddy y est moustachu, en débardeur échancré, et il enlace généreusement Mary, qui porte une veste en cuir. Ses longs bras font tout le tour de Mary comme un serpent. Il l'embrasse, elle sourit. On dirait un vrai couple. Je devine l'excitation que procurent à Mary ses étreintes offertes au paparazzi, les visions crues qu'elles lui permettent de chasser un instant. Freddy, en train d'enculer ou de se faire enculer. Ou elle, blottie dans les bras doux d'un homme qui ne la désire pas. En réalité, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Freddy ne la désire pas, mais il l'aime, et Mary le sait. Elle sait quel est le sexe idéal de Freddy, celui qu'il aurait aimé avoir, et qu'il a même un temps pratiqué avec elle. Que l'homosexualité est ce que la vie lui a donné par défaut, un déversoir, une poubelle, une décharge au milieu de laquelle elle, Mary, trône sur son piédestal. Elle ne se le dit pas en permanence. Parfois même, elle l'oublie tellement qu'elle trouve ses pensées pleines de fiel erroné. Freddy est ravi d'être comme il est. Freddy n'a pas épousé Mary, et Mary ne lui a apparemment pas voulu. Elle s'est mariée avec d'autres hommes, qui ont sûrement moins compté que lui. L'un de ses enfants a eu Freddy pour parrain, qui a dû pleurer devant ce bébé. Ce n'était pas le sien, mais ça l'était quand même un peu. Comme Simon a été subjugué par Angèle quand elle est née. Quand il venait la voir, on la mettait sur mon lit et on la regardait bouger comme deux parents ébahis. Le moindre mouvement de menton ou de poignet nous transportait d'extase. Je n'en disais rien à personne.
Un dernier extrait de Python, Nathalie Azoulay, pour se quitter sur cette image-là, c'est-à-dire, on a beaucoup parlé des sous-mondes, des souterrains, des soutes, mais aussi du serpent et des personnes qui rampent comme ça sous les existences. Il me semble que ce chapitre-là, c'est aussi une façon de dire que Python, c'est un roman sur les êtres qui comptent, malgré tout, dans la vie. Je ne sais pas comment le dire autrement, sur des espèces d'êtres d'intensité qui, quelles que soient les normes, eh ben, brilleront toujours dans nos ciels.
Oui, c'est vrai, c'est-à-dire que ce Simon est une figure d'être fondamental, qui a été très important au début de la vie, qui a été une figure initiatrice, inventive, qui m'a ouvert des portes que je n'aurais pas ouvertes sans lui, et qui m'a accompagnée pendant de longues années, y compris comme dans cette scène au moment où j'ai eu mon premier enfant, et qui, malgré le fait qu'ils ont disparu de ma vie, et qu'il a disparu de ma vie, continue de m'accompagner et continue de compter beaucoup. Et c'est vrai que vous disiez tout à l'heure qu'il y a de la libido sans sexe dans ce livre, et ces êtres qui comptent et avec lesquels on n'a pas eu de relation charnelle sont parfois plus importants que les autres. Et c'est le cas de Mary Austin avec Freddie Mercury, qu'on avait vu dans le biopic d'ailleurs. Donc c'est vrai, il y a aussi ce message-là dans ce livre.
Vous restez avec nous encore un peu ?
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Car à cette heure-ci, le lundi, nous retrouvons Emmanuel Laurentin. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Marie.
Vous avez une mission pour nous sur toute cette saison, c'est d'ouvrir des livres en fonction de l'actu. Ouais, difficile, mais vous la relevez. Les manifestations d'agriculteurs auraient pu vous faire sortir de votre bibliothèque un roman rural des années 30, un titre de L'école de Brive, symbolisé par Claude Michelet, ou encore un texte de Marie-Hélène Lafont, ou encore de Cécile Coulon, mais vous leur avez préféré un autre texte qui s'appelle Nature humaine de Serge Joncourt, paru en 2020.
Oui, parce que c'est une fresque qui se joue dans le sud-ouest, là où les blocages ont commencé. Ça commence en 1976, au Bertrange, quand la sécheresse historique de cet été-là assoiffe bêtes et hommes. Le jeune Alexandre est le seul de la famille à penser reprendre la ferme. En ces temps de combat du Larzac, leur voisin, lui, s'appelle Cressac et il est pacifiste et il refuse l'agrandissement des exploitations, tandis que les parents d'Alexandre se glissent sans aucun remords dans l'époque et la modernisation. Ça sent la mob et la GS Citroën, la cafétéria du supermarché Mammouth où on découvre le banana split et les biscuits Fingers. Le monde se rapproche du Lot, dangereusement d'ailleurs, et la famille Fabrier y plonge. Il va falloir engraisser les bêtes, s'endetter pour construire une stabulation, pour vendre de plus en plus de steaks aux Françaises et aux Français dont le niveau de vie a augmenté.
Pour qui a déjà lu un de vos livres, Emmanuel, on imagine que ces histoires vous parlent.
Oui, c'est le monde où j'ai grandi et c'est sûrement pour cela que ce Nature humaine m'a autant parlé. Joncourt y décrit l'arrivée du téléphone, le gris, pas orange parce que c'était pour les grandes villes, l'accélération qui vide la campagne, l'ambition des pères qui souhaitent que leurs enfants aient une meilleure vie qu'eux et donc quittent la terre, les fractures qui divisent urbains et paysans, mais aussi et surtout celles qui divisent les communautés rurales. Alexandre ne s'en tiche-t-il pas d'une est-allemande révolutionnaire qui, quand elle vient à la ferme, ne jette même pas un œil aux vaches, et c'est d'ailleurs reproché par sa mère, alors que sa mère, justement, Angèle, est horrifiée par le scandale des veaux aux hormones. Pendant des mois, les médias n'avaient parlé que de ça, dit Joncourt, des bêtes piquées comme des cyclistes ou des haltérophiles pour gagner du muscle et surtout pas de gras, parce que l'homme moderne venait d'identifier deux ennemis, le pain et le gras.
Mais Serge Joncourt ne s'arrête pas dans son texte à ses prémices de la déprise rurale, si ?
Non, c'est une fresque en fait, et on y croise Mitterrand qui arrive au pouvoir en 81, l'accident nucléaire de Tchernobyl, le sida, le développement du Minitel qui permet à Alexandre de suivre les cours des céréales et également la météo, mais aussi de discuter sur les forums avec d'autres modernisateurs d'une variété de maïs, je cite, dont l'insecticide serait déjà dedans. L'an 2000 se précisait parce qu'un jour on planterait la graine en même temps que le traitement, au moins s'en serait fini de tous ces produits, et ça mettrait fin à tout risque d'embrouille entre les générations. Mais tout au long des années 90 et jusqu'à la grande tempête de 1999, l'étranglement d'Alexandre continue. Le voisin Cressac, pauvre vieux, emblème du paysan intemporel, de ceux qui auront toujours vécu sur ces terres sans autre arrière-pensée que de s'en nourrir, eh bien c'est une sorte d'insulte à l'agriculture moderne que la famille Fabrier veut mettre en œuvre. Maintenant qu'il est seul maître au Bertrange, Alexandre est un malgré nous de la modernisation agricole. Il s'endette, la met en œuvre tout en restant nostalgique du monde paysan qui disparaît. C'est sans compter sur la nature, plus humaine que les humains même, qui par ses excès finira par choisir pour lui. Nature humaine de Serge Joncourt a remporté en 2020 le prix Femina. Serge Joncourt lui a donné une suite à la rentrée dernière. Chaleur humaine, on retourne au Bertrange, dans la ferme d'Alexandre, lors du confinement de 2020. Je ne l'ai pas encore lu, mais il faut ce type de texte pour approcher la réalité vécue du monde rural tel que je l'ai connu en tous les cas depuis les années 60 et la rendre compréhensible à celles et ceux qui ne le connaissent pas.
Merci beaucoup Emmanuel Laurentin. Lecture d'Actus à retrouver sur franceculture.fr. Est-ce que je peux me permettre de conseiller la lecture d'un autre livre, Sa tranche est violette. J'espère que son titre est exact. Ce serait La France paysanne.
La France et ses paysans.
La France et ses paysans d'Emmanuel Laurentin.
C'était tiré des émissions de La Fabrique de l'Histoire qu'on faisait autour de la France rurale.
On peut encore se le procurer, je crois. Dans votre book club de France Culture, à cette heure-ci, nous jouons. Alors Nathalie Azoulay, je vous explique. Ça s'appelle le grand jeu des pages musicales. L'idée, c'est quand nos auditeurs et auditrices trouvent l'évocation d'un air musical dans un livre, ils prennent leur smartphone, dont on a beaucoup parlé pendant l'émission, ils prennent une photo du passage et ils nous l'envoient ou bien via l'Instagram du book club ou bien via l'adresse mail, c'est-à-dire lebookclub@radiofrance.com. De la musique qu'on en a trouvé dans votre livre, ça a quoi comme place? Qu'est-ce que vous lui donnez comme place à la musique?
C'est une place, je dirais, mémorielle. C'est-à-dire que pour moi, la musique, c'est toujours triste. C'est toujours évocateur de choses vécues, de choses passées. Je suis très, très nostalgique avec la musique. Et par exemple, je ne travaille pas en musique parce que ça m'assombrit trop. Et j'aime beaucoup certaines choses, hein, que ce soit de la pop ou de la musique classique. Mais il faut que j'en use modérément parce que ça me rend trop mélancolique.
Donc, mais en tout cas, il y en a. Et nous avons joué. Donc d'habitude, c'est les auditeurs qui nous envoient leurs photos via mail ou via Instagram. Et là, c'est nous qui avons trouvé un extrait dans Python. J'ai beau repousser Simon sous les eaux de la piscine, il refait surface dans les travées de 42. Dès qu'un gars se lève pour sortir, aller aux toilettes, Simon le suit. Il détaille la carrure, le cul, la démarche, me fait des signes de loin, propose une note entre 1 et 10. Il est content qu'il fasse chaud, on reluque mieux. Je suis sûre que malgré les capuches, les airs introvertis et les corps avachis, il saurait flairer le bon coup. Ou du moins le distinguer pour le former. L'initier à d'autres mystères que Python, dans des backrooms qu'il improviserait en deux temps trois mouvements. Au-delà de la drague, Simon apprendrait vraiment à coder. Lui aussi reclus jour et nuit, un casque vissé sur les oreilles en écoutant des airs d'opéra. De Monteverdi à Rossini, il connaissait toutes les versions de tous les opéras, toutes les voix, les chanteurs, les chanteuses. Il entendait ce que personne n'entend, incollable, wired, avant l'heure. Un jour, il m'a dit « écoute », et il a mis son casque sur mes oreilles, comme dans la boum. C'était l'air des masques de Don Giovanni. Je n'avais jamais rien entendu d'aussi beau. Merci beaucoup, Nathalie Azoulay.
Merci à vous.
D'avoir été avec nous dans le Book Club pour évoquer Python, votre roman paru aux éditions POL. Au son aujourd'hui, c'était Olivier Arnay, à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club. Oriane Delacroix, Jeanne Aléos, Mathilde Wagman, Marianne Chassor, Léa Weisgruss, Didier Pinault et Alexandre Alaï-Begovic. Vous pouvez réécouter le Book Club sur franceculture.fr et pourquoi pas vous abonner au podcast via l'appli Radio France.